phase 2.
Aujourd'hui, on vous emmène au centre de Paris. On est entre l'île de la Cité et Saint-Germain-des-Prés, à juste en face du Pont Neuf, et on a rendez-vous au domicile de notre invité.
Vous pouvez pousser la porte.
Bonjour.
La conversation.
Très bien.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, madame?
Oui, très bien.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Alexandre, enchanté.
Voilà, nos amis de la radio.
La conversation. Bertrand Bichot. Alexandre Lemierre.
C'est ça que je crois qui est intéressant dans les conversations, c'est qu'elles puissent vous amener une perspective nouvelle sur la vie et le monde et vous-même.
En épigraphe de son autobiographie récemment sortie, Jean-Jacques Hano a choisi ces quelques mots de Nietzsche. « Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer ». Au vu de sa vie et de sa filmographie, il semble évident que l'enfant qu'il fut, celui-là même qui rêvait d'évasion en allant au cinéma, l'accompagne aujourd'hui encore, guidant ses choix et ses envies artistiques. Ce fils, unique et tardif d'un employé au chemin de fer, conserva en le développant son goût du voyage. Voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps, tout autant que dans son imagination. Bien avant de le devenir, c'est une vie en grand qu'il se forgea, une vie aussi grande que les écrans projetant ses films. Séducteur et perfectionniste, il apprit à convaincre les autres, mais aussi à suivre son instinct. Aucun projet, aussi pharaonique soit-il, ne l'ayant effrayé. Pour son film Stalingrad, c'est 17 000 costumes qu'il fallut créer. Pour Le Nom de la Rose, c'est 325 monastères qu'il visita avant de se décider à construire de toutes pièces une église en 5 mois avec une équipe de 100 personnes pour 1 million de dollars. Même ses comédiens furent parmi les plus grands, à l'image de Jean Carmet, Patrick Devers, Vincent Cassel, Claude Brasseur, José Garcia, mais aussi Sean Connery, Christian Slater, Val Kilmer, Brad Pitt, Jude Law, Ed Harris ou Antonio Banderas. Sans oublier les auteurs qu'il adapta, Umberto Eco ou Marguerite Duras pour L'Amant. C'est un grand enfant qui aime aussi les nouveaux jouets. Et dans le 7e art, ses joujoux se sont notamment appelés IMAX 3D, HD, ou prennent aujourd'hui la forme d'une série télé. C'est ainsi qu'il adapta l'année dernière La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Invité à la 2e édition des rencontres 7e art Lausanne jusqu'au 10 mars, aux côtés entre autres de Paul Auster, Agnès Jaoui, Joël Cohen, Matt Dillon ou Jean-Paul Rapneau, c'est aujourd'hui chez lui, à Paris, que le voici. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la conversation avec aujourd'hui Jean-Jacques Hano, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Mais je suis heureux de vous accueillir chez moi.
Comment allez-vous ?
Fort bien, écoutez. Oui, la vie est gaie.
C'est vous qui la rendez gaie ou
je sais pas,
qui est responsable?
Je sais, sans doute la vie a été gaie. Vous savez, c'est, je crois, une très grande chance d'avoir un rêve d'enfant et qu'on accomplit au-delà du rêve.
Vous nous recevez dans votre salon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on y voit, ce qu'on y trouve?
Ben, on y voit par la fenêtre la Tour Eiffel, l'Institut de France, le Louvre. Je suis situé au cœur de Paris et dans un endroit fort agréable qui a été construit en 1605, je crois, qui était l'ancien endroit où on fabriquait les pièces de monnaie françaises.
Et là, on est sous les toits. On voit des poutres donc très anciennes, comme vous venez de le dire, et très belles. On est dans un coin du salon avec une cheminée et je vois un projecteur dessus.
Il y en a
plusieurs, j'en ai vu un sur la poutre là.
J'ai une collection.
Ce sont des très vieux.
Une très belle collection d'appareils d'avant le cinéma parlant. J'ai pratiquement tous les modèles de caméras qui sont des modèles en bois. Vous voyez, celle-là, ça a l'air de rien, mais c'est une caméra extrêmement rare.
Avec la manivelle.
Est en 35 mm. Et puis j'ai des chronos, ouais. C'est-à-dire l'âme des projecteurs. J'ai pas mis les lanternes de l'autre côté, mais là, vous voyez, vous avez une caméra anglaise, bobines, très ancienne. Ouais. Là-bas, une caméra Hernemann, une caméra Pathé. J'ai dans la chambre une caméra, la première caméra Gaumont.
Vous collectionnez?
Oui. Depuis que je suis étudiant de cinéma, je suis rentré à l'école de cinéma à 18 ans et j'ai acheté mon premier petit projecteur qui était un jouet en 35 mm qui était un des cadeaux qu'on faisait en 1895, véritablement à l'aube du cinéma, et qui marche toujours. Et vous voyez, ça, là vous avez devant vous un petit jouet aussi, avec une petite boucle de dessin animé de
Emile Cole. Ah oui, on voit la bobine.
Oui, et ça marche très bien. C'est-à-dire que c'est une petite lanterne à pétrole et un objectif, et le film a un défilement saccadé avec ce qu'on appelle une croix de Malte, c'est-à-dire que c'est en jouet ce qu'étaient les projecteurs de l'époque. Et c'est aussi un passe-vue, comme vous voyez, il y a dessus une petite pièce en verre couverte de carton. C'est un passe-vue pour qui servait aussi de lanterne magique, puisqu'à l'époque on était à la transition entre la lanterne magique et le cinéma. Alors, c'est la caméra des films muets de Jean Renoir.
Oui.
Alors, ça, c'est un petit 35 mm. Ça, c'est une petite caméra 35, qui doit être une Gaumont ou une Pathé, je sais pas où. Attends, je sais plus. Alors, non, ça, c'est une Vital, oui. Une caméra anglaise. Mais elles marchent toutes, hein. J'ai tourné avec certaines. Voilà, tu vois le défi muet là, tu vois, c'est du 35 mm là.
Vous les retapez vous-même, vous savez comment ça marche?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui,
ah oui. Attends, j'ai pas fait l'école de lumière.
Non, mais rien.
Alors ça, c'est une caméra de 1920, ça.
Française.
C'est la Gaumont. Celle-là, c'est une Gaumont, c'est l'une des toutes premières. Et c'est d'ailleurs fou de voir, vous voyez, il y a tout petit magasin là, qui tiennent 2 minutes de film seulement. Mais c'est du 35 mm déjà.
Et tout est en bois là.
C'est tout en bois. C'est les caméras ont imité les appareils photo. C'est-à-dire que au départ c'était une boîte en bois. Les appareils photo c'était fait pour des plaques, donc c'était assez grand. C'était un format rectangulaire vertical. Et là ils ont adapté ça parce que les idées changent lentement, vous savez. Donc on a adapté un modèle qui finalement est complètement stupide parce que c'est un défilement vertical, donc vous aviez intérêt à mettre une caméra plate, mais là non, on a toujours ce format carré là. Vous avez une bobine qui a de film vierge et la bobine de film impressionné avec une boucle qui permet de rester dans une boîte. Mais pourquoi cette idée de boîte? Alors qu'après, on a inventé, évidemment, les magasins fameux qui représentent les caméras de cinéma, que l'on décrochait beaucoup plus facilement. Là, c'est un chargement extrêmement compliqué. J'ai appris à charger ces caméras-là à l'école.
Ça, c'est qu'à l'époque?
Oh, c'est tout ça, c'est avant 1910. On a fait des caméras en bois jusqu'en 1920 à peu près.
Elles sont énormes.
Et oui, parce que c'est les magasins de 300 mètres. Là.
Et oui.
Bon bruit du défilement. Voilà. J'ai encore de la pellicule.
La conversation.
Il y a quelques mois, vous avez sorti une autobiographie, Une vie pour le cinéma, avec Marie-Françoise Leclerc aux éditions Grasset. Vous vous définissez en tant qu'enfant en ces termes: j'étais un enfant solitaire, aimant cette solitude, paisible, curieux et acharné quand quelque chose le passionnait. Est-ce que vous diriez que vous l'êtes encore?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, vous voyez.
Solitaire aussi? Tous ces adjectifs, solitaire aussi?
Oui, bien sûr, j'adore parce que la solitude me permet de rêver à mon rythme. Je travaille finalement beaucoup la nuit. Parce que j'ai peu d'appels dans la nuit, évidemment.
C'est le seul moment où il y a un peu de calme.
Oui, je suis calme et je peux m'évader. Voyez-vous, là, récemment, pour le tournage d'Harry Kébert et de la finition, j'ai passé 2 ans au Canada, qui est un pays que je connais bien parce que j'ai tourné déjà 3 autres films. J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver mes amis québécois. Et je suis pas venu dans mon appartement pendant 2 ans. Parce que je suis venu juste quelques jours pour Noël et 2 jours pour le Festival de Cannes. Donc, si vous voulez, pendant 2 ans, j'ai été complètement satellisé.
Et vous le vivez bien?
Mais très bien. Pendant 4 ans auparavant, j'ai vécu en Chine. Et j'ai adoré. Mais moi, j'ai eu des amis formidables. J'ai fait un film que j'ai adoré faire, qui s'appelle Le Dernier Loup en langue française, qui m'a, satellisé. J'ai vécu entre la Mongolie intérieure et Pékin. J'ai découvert une situation inattendue. enraciné dans l'histoire, mais aussi complètement en phase avec le monde contemporain. Et je vais sans doute y retourner. Donc, si vous voulez, mon appartement de Paris et ma maison de campagne sont mes ports d'attache. Mais c'est les ports d'attache où, très souvent, je ne suis pas là. Mais bon, ben, j'appelle ceux qui y sont. je m'endors souvent en pensant à ces maisons, mais je suis au loin.
Je vous proposais de voyager tout de suite, ça va vous faire plaisir. Un voyage au cœur de votre enfance, Jean-Jacques Hano.
Hermès, c'est le 824, mets les œufs. Hermès, c'est le 413, tu peux les retirer.
Le train, pour être exact.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Vous avez tout le temps nécessaire.
Observez exactement et dès l'alerte les prescriptions imposées. C'est plus que votre intérêt, c'est votre devoir.
Because a Kodak movie camera says, take me with you, always.
On s'en va.
C'est le week-end, fini la semaine. Allons à la campagne pour nous refaire une santé. Rien de tel que la campagne.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
~200 grammes de viande par semaine, c'est maigre. ~500 grammes de sucre par mois, c'est peu. Cependant, les tickets des 40 millions de Français n'absorbent pas la totalité de la production.
J'arrive, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil, la
vie nous séparance. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Vous retrouverez dans ces scènes les visages que vous avez rencontrés parfois dans la pauvre lumière des gares occupées, que vous avez aperçus le long d'un remblai pendant ces haltes d'un train en pleine campagne. Vous connaîtrez le secret qu'abritaient les bureaux des gares, les voies de triage et les dépôts de locomotives. Quand les hommes du rail furent entrés dans la plus ténébreuse et la plus immense conspiration de tous les temps. Bataille du rail, le plus grand film mondial que vous devez avoir vu.
Quand on fait des fellations sur une cantate de Bach, c'est érotique. La paire de fesses reste la même, et ce que Georges Charançon appelle la tête, c'est exactement la même. Bon.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma.
Sarebbe comodo buttare fuori uno così, dopo 20 anni.
E vedrà, e intanto paghi gli arretrati.
2005.
Nous retrouvons un enfant dans le voleur de bicyclette.
Eh oui.
Est-ce qu'il y a un souvenir là, précis pour l'origine de ce film?
Non, l'origine est toujours cet amour que nous avions pour le pauvre être... Victime de guerre perdue.
Luft aus Blütenkelch. Bin in einen Mann verliebt. Und weiß nicht in welchen. Hoffe Geld.
These are the von Essenbecks.
Chez Visconti, les damnés, ce sont les Atrides.
Ce n'est pas simplement par caprice que j'ai choisi une famille d'industriels allemands.
Mickey fête son anniversaire, c'est par un journal qu'elle se fait connaître en France. L'hebdomadaire a été créé dans les années 30. Il s'adresse aux enfants de 7 à 13 ans et leur propose des bandes dessinées mais aussi des reportages.
Well, this year with a Brownie movie camera, you can save the truly wonderful things of Christmas. The rapture on the face of a child seeing his first Christmas tree.
You'll get all the action and color with a Brownie movie camera. Give a Brownie movie camera so your family can take movies and make this the best Christmas they'll ever remember.
Et je t'emmène au cinéma.
C'est amusant tout ça. Je suis très impressionné parce que vous avez choisi le son du train sur des rails courts. Et c'était les rails de l'époque faisaient entre 10 et 15 mètres. Et donc, effectivement, le bruit du train... Pardon ?
Vous avez une sacrée oreille ?
Oui, ça fait entendre ça. Autrefois, un train qui roulait à 100 à l'heure, c'était tagadang, 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 tagadang. Tandis que maintenant, c'est des rails de 700 mètres qui sont soudés. Donc,
et c'est le vrai son de la gare de Juvisy que vous avez entendu.
Sans blague.
On a évoqué le Kodak Brownie, votre premier appareil photo. Vous aviez 7 ans. Des films que vous avez vus enfant, La bataille de rails de René Clément, Umberto D de Vittorio De Sica, Les damnés de Visconti, bien sûr, et puis le journal de Mickey.
Ah, journal de Mickey, très très important pour moi, parce que nous ne recevions que deux revues à la maison. La vie du rail, évidemment, c'était un hebdomadaire qui existe toujours, et j'étais imbattable sur les locomotives, sur les voies qui allaient être, dont on allait changer le ballast, enfin tout ça me passionnait, et le journal de Mickey, et dans lequel j'ai lu la bande dessinée de La guerre du feu. Et c'est une introduction lointaine au plaisir du voyage dans le temps. Même si cette bande dessinée était très naïve, dans mon esprit d'enfant, je devais avoir, je sais pas, 4 ans, 5 ans, c'était émerveillant, comme dirait Marguerite Duras, de voyager si loin dans le temps. Ça me permettait de rêver, et je ne savais pas que j'allais avoir la chance d'en faire une adaptation cinématographique.
C'est incroyable comme vous avez su très très jeune que vous vouliez devenir cinéaste.
Ben, c'est rare. Ça m'étonne aussi un petit peu, mais c'est justement...
Et avec beaucoup de conviction, on parlait tout à l'heure parfois de votre acharnement, vous en étiez convaincu, vous avez tout fait pour que ça se réalise.
Oui, parce que je vivais dans une banlieue très très agréable, une banlieue pavillonnaire, très calme, personne ne fermait les portes, il y avait chez moi, ma mère collectionnait les rosiers, donc si vous voulez, mais c'était un petit peu, c'était rose, doux et un peu chiant. Il n'y avait pas de véritable perspective. Sauf que mes parents, qui avaient pressenti ça, m'emmenaient beaucoup au théâtre, au concert. Toutes les semaines, j'allais à la Comédie Française déjà. J'ai eu une place qui était la place numéro 52, premier rang de premier balcon, pendant, je crois, 15 ans.
Une vraie chance.
Oui.
Et vos parents se sont adaptés à vous, ou ils avaient déjà ces habitudes culturelles?
Pas
avant
du tout.
Donc c'est pour vous.
Mais ma mère avait le souhait d'être plus cultivée qu'elle ne l'était. Sauf qu'elle avait une jolie place, elle était cadre supérieur finalement, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Et la distraction du dimanche, c'était d'aller au Draveil Palace. Nous montions la côte. Et il y avait une énorme salle où il faisait très froid, les banquettes étaient en bois, mais l'écran était très grand. Et je me souviens, moi j'étais entre papa et maman, et l'écran s'ouvrait et c'était déjà du voyage. Et le cinéma m'a transporté un petit peu partout, et mes parents, bizarrement, suivaient la critique de cinéma qui était dans La vie du rail. Et c'était un très bon critique de l'époque, qui s'appelait Charansol, qui est toujours bien connu des spécialistes de cinéma, et qui détestait les films américains, mais qui conseillait beaucoup les films italiens, les films russes et les films français. Et du coup, moi, mon éducation, ça a été ça. J'ai voyagé avec Poudovkine, avec Eisenstein. Je suis allé en Italie avec De Sica, avec Risi, avec Rossi, avec Monicelli. Et si vous voulez, j'ai tout de suite dans mon âme d'enfant compris que j'aimais me transporter sur l'écran. Et un jour, j'ai reçu à la maison, avec le journal de Mickey, il y avait un catalogue d'une société de vente d'appareils photo qui avait à la fin une description et des petites images de caméra. Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais jouer avec ces instruments pour faire ce qui me fait rêver le dimanche. Et c'est ainsi que quand ma mère est rentrée du travail, je lui ai dit « Maman, je veux faire du cinéma ». Et elle m'a pris au sérieux, même si elle était désespérée, parce que c'est comme si je lui avais dit « Maman, je vais être clown dans un cirque itinérant ». Je me souviens, elle avait téléphoné à ses amis qui s'étaient désespérés en disant « Quel dommage, un si bon élève qui allait faire du cinéma ». Mais elle m'a envoyé, elle a pris rendez-vous avec le directeur de l'IDEC, qui s'appelle aujourd'hui la FEMIS, qui est une des plus grandes écoles de cinéma du monde, et j'ai obtenu un rendez-vous, enfin, ma mère a obtenu un rendez-vous, à la grande surprise du directeur, qui a vu un petit garçon en culotte courte, qui avec des soquettes blanches qui tombaient d'ailleurs.
Vous aviez quel âge là ?
J'avais 8 ou 9 ans. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que j'étais en culotte courte et que mes chaussettes tombaient. Et je me souviens aussi de la tête du directeur, qui avait reçu ma mère, qui lui dit « Mais alors, votre fils veut faire du cinéma, à quel niveau en est-il ? Quel bac a-t-il passé ?» Elle dit « Non, mon fils, c'est lui. » Et donc, stupeur, il appelle sa secrétaire en disant « Mais il y a un petit garçon qui veut faire du cinéma. » Il a donné des conseils à ma mère, qui a tout noté en sténo. Vous savez, à l'époque, c'était une manière d'écrire très vite. Et j'ai fait ce que ce directeur, qui s'appelait Rémy Tessonneau, m'avait conseillé de faire. Donc j'ai fait des études littéraires et scientifiques, ça s'appelait A' autrefois. Donc j'ai fait, si vous voulez, latin, grec et sciences et maths. Et j'ai fait d'abord, selon son conseil, l'école technique qui s'appelait l'école de Vaugirard, qui s'appelle aujourd'hui l'école Louis Lumière, qui est une très très bonne école, qui m'a appris la technologie. Et après j'ai terminé avec la FEMIS, ça s'appelait autrefois l'IDEC.
Vous dévoilez dans votre livre Une vie pour le cinéma une histoire très intime sur vos origines. À 19 ans, votre mère vous apprend que votre père, en tout cas l'homme qui vous élève, n'est pas votre vrai père. Lui-même vous dira quelques années plus tard « Tu es beaucoup trop bien pour être mon fils ». Quelle influence ça a eu sur votre filmographie, si influence il y a eu cette découverte à 19
ans ? Ce moment-là, si vous voyez, ce qu'il y a de curieux, c'est que je m'inquiétais beaucoup de mon bagage génétique.
Pourquoi ? Parce que déjà, vous trouviez qu'il y avait une différence entre l'homme qui vous élevait et vous-même ?
Si vous voulez, j'étais à l'IDEC à ce moment-là, donc à l'école de cinéma, et aussi à la Sorbonne, je continuais le grec à la Sorbonne. Et je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui préparait Normale Sup, qui a été reçue première et qui est sortie première, qui était brillantissime. Et quand j'ai découvert qu'elle était très jolie en plus, quand j'ai découvert que sa sœur était aussi cultivée qu'elle, et qu'elle était très jolie, et que j'ai découvert que son frère était d'une grande beauté et d'une grande culture, et que j'ai découvert que ses parents étaient tous les deux des sportifs, mais professeurs à haut niveau à l'université de Bretagne, je me suis dit, moi, je m'en sortirai pas, c'est pas possible, parce que il y a une telle différence au départ, si vous voulez, de ces gens qui étaient bénis des dieux, que je me suis inquiété, moi, de ne pas avoir
les mêmes bagages génétiques. Enfin.
Oui, d'être.
Votre mère avait un bon poste.
Ma mère avait un très bon poste, elle était jolie. Elle a été la maîtresse
du
patron.
Qui était votre père, non ?
Qui est devenu, que j'ai appris être mon père. Mais si vous voulez, la découverte de mon passé génétique m'a rassuré dans la seconde. C'est-à-dire que...
Il y avait une explication.
J'ai eu une crise d'adolescence de 30 secondes à peu près. Et d'un seul coup, je me suis mis à adorer Monsieur Hanau, qui m'a élevé avec tellement de tendresse, de gentillesse. Il s'est donné tellement de mal que le monde s'est recomposé. Et si vous voulez, beaucoup de mes films sont sur l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé que dans ma situation, la seule manière de m'en sortir, de me sortir de cette charmante maison avec des roses et un petit chien et une rue qui mène nulle part, il fallait que je travaille en classe. Et donc j'ai vénéré mes instituteurs. Je m'affole quand je vois que beaucoup de gens maintenant méprisent l'école, mais moi je dois tout à l'école. Tout ça m'a incroyablement aidé.
Voici Harry Belafonte avec Try to Remember.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September
when grass was green and the grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were young and a callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember when life was so tender, that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender, that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender, when love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Deep in December, it's nice to remember, although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember, without a hurt, the heart is hollow. Fire of September that made you mellow. Deep in December, our hearts should remember and follow.
Bonjour, je suis Jean-Jacques Hano et c'est pour la conversation.
La conversation.
Jean-Jacques Hano, vous nous accueillez dans votre salon de votre domicile parisien. S'il y avait l'objet le plus important dans cette pièce, ce serait quoi?
Ma femme.
Oh. Jean-Pierre Mocky, il y a quelques semaines, nous a dit son chien. Arrêter avec ces objets humains ou animaux.
Ma femme, sauf que c'est de loin d'être une femme objet. Là, ici, sans doute mon stylo.
Ah oui.
Oui, parce que.
Avec tous les beaux projecteurs que vous avez de collection.
Oui, mais ça, c'est l'environnement. Le stylo, c'est le premier outil du rêve. C'est par là que ça commence, même si je travaille à l'ordinateur beaucoup, mais je continue à aimer écrire à la main.
Vous avez un stylo particulier ou
il y en a? Oui, plein. J'ai un stylo, oui, qu'on m'a offert il y a des années, qui est un Mont Blanc, voyez, on se rapproche de la Suisse, et qui est très agréable à l'écriture. Alors, quand je suis en période d'écriture, d'ailleurs, j'ai les doigts marqués parce que ça coule un peu. Oui. Mais j'aime bien cette période parce que, si vous voulez, je passe plus de temps en vérité en écriture qu'en réalisation propre. Je tourne un film en 6 mois, mais j'écris pendant au moins 1 an sur chaque scénario.
Vous débutez la pub par hasard, en remplacement d'un élève assistant tombé malade. Vous allez participer à un film publicitaire pour une auto-école et croiser Jean Mineur, le petit personnage qu'on voyait lancer son pic sur une cible avant les films il y a quelques années au cinéma. Racontez-nous cette histoire étonnante. Vous êtes retrouvé par hasard dans un milieu que vous connaissiez pas du tout,
pas
d'ailleurs,
du tout. La pub. Je n'avais quasiment jamais vu un film publicitaire, sauf dans les temps anciens avec mes parents. Mais depuis que j'étais lycéen et surtout élève de cinéma, à l'école de cinéma, j'allais à la Cinémathèque. Au même titre que j'ai eu une place réservée à la Comédie Française, j'avais la place D2 au quatrième rang, donc ABCD quatrième rang. C'était l'endroit qui, géométriquement, était le meilleur endroit pour être, pour que mon champ visuel couvre l'écran, ou que l'écran couvre mon champ visuel. Et cette place n'a jamais été vendue à une autre personne que moi, parce que je venais tous les jours, et je voyais les trois films. Donc pendant 4 ou 5 ans, je n'ai été qu'à la Cinémathèque, et le dimanche, j'allais dans les cinémas d'art et d'essai du quartier latin, où il n'y avait pas de films publicitaires. Quand j'ai reçu un appel de l'école de cinéma en me disant « il y a un ancien élève qui est tombé malade, est-ce que vous accepteriez d'être assistant ?» J'étais en train d'écrire mon mémoire. J'ai dit non. Mais on m'a dit « le directeur des études me voyait, vous avez tort parce que c'est 150 francs par jour. » Oh là là, alors là, 150 francs par jour, ça m'a semblé une somme colossale. Donc j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé dans un truc tout à fait étrange. C'est la première fois que je voyais un storyboard de pub, et c'était effectivement pour une auto-école. On voyait une blonde qui était dans une décapotable, et puis on panoramiquait vers l'avant, on s'apercevait que la voiture était complètement défoncée, et on reculait pour découvrir qu'elle était attachée à une dépanneuse. Alors moi, je fais mon travail d'assistant, je vérifie, il y a une blonde, il y a un cabriolet, une voiture décapotable, et il y a une voiture remorque, une dépanneuse, et je vois le metteur en scène mettre son plan en scène, en mettant les rails de travelling. Je viens à lui, je lui dis, écoutez, ce serait quand même mieux de défoncer la voiture tout de suite, même si je pensais que c'était une folie, mais on m'avait dit que dans les films publicitaires, les gens étaient fous, ils avaient autant d'argent qu'ils voulaient, donc je me dis, ils vont péter la voiture, bah, autant la péter tout de suite. Le gars me dit, mais pourquoi péter la voiture? Je lui dis, c'est l'histoire. Alors il appelle le machiniste, Dédé enlève le phare. Dédé arrive avec un tournevis, il fait tomber le phare qui pend au bout d'un fil. Et il remet son plan en place. Et je lui dis, monsieur, excusez-moi, mais là, ça ne veut pas dire que la dame ne sait pas conduire, ça veut dire qu'elle ne sait pas remettre son phare. Il me dit, toi, t'es quoi? Ben, je lui dis, je suis votre assistant, monsieur. Bon, ben, alors ferme ta gueule et va faire la circulation. Et donc, je fais la circulation, c'est-à-dire j'empêche les autres voitures, c'était dans le bois de Vincennes. Et là, arrive un petit monsieur très autoritaire, haut comme trois pommes, et qui me dit, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, je dis, monsieur, on ne passe pas, il y a un film qui se tourne. Il me dit, oui, c'est moi le producteur, bonjour, Jean Mineur. Et donc, c'était un vrai monsieur, tout petit, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais enfin, quand il a vu les roches, c'est-à-dire le film brut, il a piqué une colère en insultant le metteur en scène. Je suis rentré chez moi, le téléphone sonne, c'est Jean Mineur, qui me dit, est-ce que vous êtes libre demain? Alors d'un seul coup, je fais le calcul, je me dis, oh, ça fait encore 150 euros, je dis oui, 150 francs de l'époque. Et il me dit, et la semaine? Je dis oui. Et il me dit, ben, vous allez faire la série.
Il avait appris que vous aviez eu cette réflexion.
Oui,
plein de
il
bon
avait
sens.
Appris ça par l'équipe. Ah, oui. Et donc...
ça a payé, si on peut
oui,
dire.
Oui, j'ai eu cette chance. J'aurais dû, en fait, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule, en vérité. Mais je l'avais pas fait de façon arrogante. Je me souviens que j'étais complètement consterné de voir.
Une incohérence, juste.
Mais oui, ça racontait pas du tout l'histoire. Quand je me suis retrouvé jeune metteur en scène de pub, on m'a d'abord confié les films d'effets spéciaux parce qu'on a dit c'est un bon technicien. Attends, j'avais une tronche de môme, j'avais 19 ans et demi. On me demandait toujours où est le metteur en scène. C'était moi, j'avais honte. J'essayais de m'habiller comme un adulte, mais il n'y avait rien à faire. Et donc, comme il avait été décidé que j'avais été bon élève et que je savais bien mon dossier technologique, on me faisait faire des trucs extrêmement emmerdants, avec des croisillons, des images superposées, un tas de trucs. Au bout de 20 films comme ça, j'ai dit, moi j'arrête, hein, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, c'est pas ça que je veux faire. Alors on m'a dit, bah écoute, on a un film pour croquettes pour chien, là, est-ce que ça te plairait? J'ai dit, c'était mieux que les effets spéciaux. Donc j'ai accepté ça, et je me suis mis à faire pendant, je sais pas, 6 mois, des graines pour oiseaux, des daphnés pour les poissons rouges, donc j'en ai eu marre, et là on m'a confié les enfants. Les bébés d'abord, je fais les couches-culottes, les petites bouillies. À chaque fois on voulait m'enfermer dans un tiroir, ouais. Vous comprenez? Et là, j'ai bien senti le danger. Je me suis dit, non, là, il faut faire très, très gaffe. Et du coup, à force de refuser, je refusais tout. On m'a confié des acteurs qui n'en étaient pas encore à l'époque, parce que les acteurs célèbres, ou simplement les acteurs de qualité, ne voulaient pas faire de films publicitaires. C'était très, très mal vu. Mais du coup, c'était formidable, parce que je travaillais avec des non-professionnels. Et c'est rien de meilleur comme école que d'avoir à diriger soit des débutants, soit des non-professionnels. Donc je suis très reconnaissant à cette période. Je me suis spécialisé dans la comédie à l'époque. Et puis, assez rapidement, dans les films dits à gros budget. Les films de bagnole, on se partageait le marché à trois. Il y avait Ridley Scott, Alan Parker et moi. On se partageait le marché européen.
On va revenir en son sur vos années de pub, Jean-Jacques Haneau.
Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.
Monsieur Magie, j'ai envoyé de l'asperge grosse comme ça et pilote comme ça. Hein?
Le meilleur dans la crème d'asperge, c'est les pointes d'asperge. Magie ne l'a pas oublié.
Les meilleures pubs au monde sont justement celles qui sont suggestives avec un message subliminal.
Absolutely, your pleasure is inside, Vincent, you know what I mean?
Ah, as-tu compris?
Citroën GSX, une nouveauté parmi les 7 modèles de la gamme GS.
C'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question.
Je suis moi, tout simplement.
Elle regarde la caméra dans les yeux.
Mon secret, c'est...
Starlight.
Yes! Yes!
Ils vont adorer, hein, sans déconner.
Elle reprend.
Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant.
Puisque je vous ai tout dit.
Les gars, là, vous m'avez bluffé, hein.
Urgo multi-extensible. Un pansement qui suit le mouvement.
Draguer une nana. Aucun problème. Tu sors la limousine pour la raccompagner. Tiens, baisse le siège en cuir purpoint et tu t'approches très, très, très près d'elle et tu lui fais...
Très rouge, très, très vert, très, très bleu, dentifrice et très, très la fraîcheur partagée.
Le seul publicitaire français à avoir 5 enfants de la même famille.
Ça devient très rare en général, mais chez les publicitaires, c'est vraiment exceptionnel. Hein.
Et ma maîtresse, c'est la pub. Et j'ai les mêmes cohites avec la pub qu'avec ma femme. Et la même passion de retrouver la pub que ma femme. Donc j'ai pas le temps de vieillir, parce que pour moi, la vie est un jeu permanent. Mais quelle chance j'ai.
C'est moi, chérie.
Montre Gaëtan.
Hé. C'est la pub.
Crunch. Crunch, le chocolat qui croustille.
C'est bien la nouvelle Ford Escort Manhattan.
Hertz, la voiture, pas l'aventure.
Henri Brice n'est pas là.
Non, c'est, je pense qu'il va arriver dans une few minutes. Moi, ce que je te propose, tu me fais un petit topo briefing en attendant, puis on commence les vagues.
Ok. D'accord. Bon, si tu veux, j'ai une super good news.
Ouais.
Pour notre agence de pub, Pub of Saint-Ouen,
ouais.
On a les pleins pouvoirs pour mener la campagne présidentielle du candidat Jacques...
Chirac.
Non, Jacques...
Langue.
Glandu. Voilà.
Je connais pas. Non, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on ait la main libre, hein.
J'adore.
J'avais 23 ans et je me suis aperçu que il était temps de ne plus perdre mon temps. Et je suis revenu en disant je ne ferai plus que les films publicitaires qui me plaisent. Mais j'avais pas tout à fait compris que les films publicitaires c'était destiné à vendre un produit qui n'était pas forcément celui que j'aurais aimé faire acheter aux gens.
On a entendu quelques-unes de vos pubs. Et puis la voix de Seguela, un extrait de 99 francs de Bec BD, et puis Les Inconnus, se moquant un peu des publicitaires. Et vous-même, votre propre voix.
Voilà, oui, là, la dernière intervention.
La victoire en chantant, un film de Jean-Jacques Haneau, avec Jean Carlet, Jacques Dufilho, Catherine Revel et Jacques Spiesser.
Après la pub, votre premier film sorti en salle, c'est La Victoire en chantant. Claude Berry était votre producteur à l'époque. Il voit les rushs et vous dit, je vais pas y aller par quatre chemins. C'est complètement raté. Le film est resté d'ailleurs deux semaines à l'affiche à Paris. C'est l'échec, moins de 40 000 spectateurs. Quelques mois plus tard, Berry vous rappelle, vous dit, finalement, j'ai vu le montage final. C'est très bien, c'est un chef-d'œuvre, ton film. Un film qui va recevoir un Oscar. C'est votre premier film. Alors, il a été représenté par la Côte d'Ivoire, mais vous en êtes le réalisateur. Et la statuette, vous ne l'avez jamais vue, vous dites.
La statuette, non, mais si vous voulez...
C'est dingue quand même pour un premier film fait par un Français de recevoir un Oscar. Vous êtes le seul dans ce cas-là.
Probablement,
ouais,
oui.
J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé d'autres.
Oui, mais si vous voulez, c'était tellement imprévu pour moi que je suis resté à Paris. Je ne suis pas du tout allé à la cérémonie. D'abord, la personne qui avait racheté le film, Jacques Perrin, qui était en fait le producteur principal, Claude Berry était le distributeur à l'époque, m'avait effectivement renvoyé en me disant « Écoute, tu touches pas ta bille en long métrage, retourne faire du film publicitaire, franchement, tu n'y comprends rien en long métrage. » Il faut dire qu'il avait insisté pour voir une copie qui était en noir et blanc à l'époque, avec des collures partout, vous savez, collées au scotch, et une bande de dialogue sur deux, donc oui, il avait donc trouvé que le film était très ennuyeux, je n'avais pas compris pourquoi un jour de février il m'avait appelé en me disant que mon film était un chef-d'œuvre vu que il était supposé l'avoir vu puisqu'il le distribuait, mais il m'avait avoué que non, il l'avait jamais revu. Et cette journée-là a été mémorable pour moi parce que partout où j'allais, j'étais en train de préparer des films publicitaires, donc j'avais des décors qui se construisaient dans les différents studios de Paris, et à chaque fois on me disait bravo. Alors je croyais qu'on me disait bravo parce que j'avais reçu les compliments de Claude Berry. Sauf qu'à la fin, à la fin de journée, je vais au studio de Boulogne, je rencontre Max Douy, qui était un grand chef opérateur, un grand chef décorateur, et qui me dit bravo. Mais je lui dis, mais Max, qu'est-ce que vous avez tous à me dire bravo? Mais il me dit, tu sais bien que tu as été nommé aux Oscars? Et je n'en savais rien du tout. Et donc j'ai compris pourquoi Claude Berry a vu le film le matin même, quand il a appris que j'avais été nommé, et d'un seul coup je deviens un héros alors que j'étais considéré comme un nul. Bon, ce qui s'est passé après, c'est que la presse française avait décidé que l'Oscar allait être obtenu par un bon film qui s'appelait Cousin Cousine de Takela, et Gaumont avait d'ailleurs investi beaucoup d'argent en promotion, etc. Du coup, comme tout le monde annonçait que c'était ça, moi je savais pas comment ça marchait les Oscars, j'ai pas fait le déplacement, d'autant que l'acheteur suisse qui allait, lui, récupérer la statuette, m'avait dit, ne viens surtout pas, parce que les gens seraient déçus, ils pensent que tu es noir. Et donc, effectivement, comme j'ai beau aimer l'Afrique, j'ai pas changé de couleur de peau, je suis resté dans mon lit. Et là, le téléphone a sonné. Ma femme, à l'époque, était en train de convoler avec un autre, donc elle dormait le plus loin possible de moi. Et elle décroche le téléphone, et j'entends une voix qui dit, ton mari a l'Oscar. J'ai pas cru. Je me suis dit, ben c'est un plaisantin, il fait une blague, etc. C'est pas de très bon goût. Je me suis rendormi. Mais un deuxième coup de téléphone survient. C'est une dame de Suisse qui me dit, mais qu'est-ce qu'on t'avait dit? Ben on m'avait rien dit du tout. Ben on a l'Oscar. Là, du coup, j'y crois un peu. Et là, je me rendors pas tout de suite. J'attends qu'il soit 6h du matin pour avoir les nouvelles, parce qu'il n'y avait pas de chaîne d'info continue. Et donc, j'attends patiemment 6h du matin. Là, c'est sur France Inter. Le speaker dit, déception pour la France, c'est un obscur film de Côte d'Ivoire qui obtient la récompense.
Donc votre nom était même pas cité?
Non, je n'ai jamais récupéré cette statuette parce que le monsieur qui a fait le discours, qui était un homme que je respecte beaucoup, qui s'appelle Arthur Cohn, qui est suisse, il aimait collectionner les prix. Moi ça m'a pas gêné, c'est moi qui ai fait le film, c'est moi qui l'ai conçu, c'est mon idée, tienne. C'était mon bébé, et j'étais très content que finalement, Arthur Cohn récupère cette statuette. Après tout, il avait misé sur mon film en l'achetant alors qu'il venait d'avoir un échec. J'ai dit bravo. Et puis, il m'avait aidé à l'époque à cofinancer le film. Donc, voilà, je suis plein de gratitude. Et j'ai pas besoin d'avoir la statuette chez moi pour savoir que j'ai eu un Oscar.
On en arrive à Coup de tête, film sur la mesquinerie bourgeoise, film sociologique on pourrait dire, dans l'univers du foot. D'ailleurs c'est Giroud à l'époque qui était votre conseiller technique. Vous avez envie de faire tourner Patrick Devers, Alain Poiré qui est votre producteur,
oui,
du film. Vous le déconseillez parce que Devers à l'époque...
Ah, il m'interdit.
Il vous l'interdit parce qu'il était en plein... Mais parce dans que la drogue,
il n'était pas assurable.
Incontrôlable et carrément inassurable.
On pouvait pas l'assurer. Donc si vous voulez, c'était rédhibitoire.
Vous dînez quand même avec lui. Il arrive à vous convaincre en vous disant si tu m'engages, j'arrête complètement. Et vous allez d'ailleurs dire de lui que vous avez rarement eu un rapport aussi personnel et profond avec un acteur. Son charme était indicible. Vous le comparez à un piano désaccordé.
Ah oui, oui, oui.
Ça veut dire quoi ?
Ce que j'aimais chez Patrick, c'est qu'il me faisait toujours penser à un instrument qui n'était pas complètement accordé. Quand Patrick riait, il y avait un fond de tristesse qui donnait une dimension. Parce que quand vous avez un rire, bon, un rire c'est formidable, mais ça devient un rire comique. Avec Patrick, c'était un rire plein de charme, de mystère et de contradiction. Et c'est ça que je voulais pour ce personnage. Et donc, Patrick a été formidable, ce repas, je me souviens. Je lui ai dit, tout de suite, Patrick, on ne peut pas t'employer parce que tu n'es pas assurable. Il m'a regardé, il m'a dit, si tu me donnes le rôle, j'arrête. Droit dans les yeux. Et je l'ai cru. Et il s'est arrêté.
Presque.
Il s'est arrêté jusqu'à la dernière semaine de tournage. Malheureusement, il avait un film après, le film de Corneau,
Série noire,
qui demandait justement qu'il retombe dans cette noirceur.
Démons, ouais.
Et il est retombé avec un incident sur le tournage. Il a fracassé la mâchoire d'un accessoiriste. C'est la première et seule fois de ma vie où j'ai vu 4 dents tomber sur le sol d'une gare dans une flaque de sang. Oh.
Il trouve ça drôle, tu te marres, toi. Hein. C'est marrant, ça.
En 1981, Jean-Jacques Haneau, vous sortez La Guerre du Feu. On en parle dans un instant, juste après avoir écouté un extrait de la bande originale de ce film, une composition de Philippe Sard. Je crois que vous avez demandé à Philippe Sard de jouer sur l'émotion, sur sa composition. C'était ça le brief pour ce film.
Si vous voulez, c'était très, très, très important. La musique était vitale et j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de Philippe, qui a compris que j'étais dépendant de la musique pour faire comprendre l'histoire. Il n'y a pas de dialogue dans ce film dans une langue connue, et il n'y a pas de sous-titres. Donc là, quand vous avez une musique comme celle que j'entends à l'heure actuelle, qui est une musique de flûte, de pan, mais de très grosse flûte de pan, nous avions décidé ça avec Philippe pour avoir du vent. Vous voyez, c'est-à-dire que les flûtes des orchestres symphoniques ont un son très clair. Là, c'est un son rugueux, primitif d'une certaine manière, parce que je voulais retrouver de temps en temps, dans une composition symphonique, des instruments comme le didgeridoo australien, ou ces flûtes très graves. Qu'est-ce que c'est une flûte? C'est une flûte de pan, c'est simplement un tube dans lequel on souffle finalement. Donc c'est un instrument complètement primitif et très émouvant. Philippe a su faire un score, c'est comme ça qu'on appelle la musique composée pour l'image, qui raconte les sentiments des personnages sans que j'ai besoin d'avoir une voix off ou d'avoir un dialogue pour expliquer ce que les personnages ressentent.
C'est pendant le tournage de La Guerre du Feu que vos cheveux sont devenus tout blancs. Est-ce que ça veut dire que c'est le tournage le plus épuisant physiquement et psychologiquement de votre carrière?
C'était monstrueux. Oui.
En toute sobriété, c'était monstrueux.
Oui, si vous voulez, toutes les misères du monde me sont arrivées. D'abord, il y a eu la grève des acteurs. Pas des miens, mais le syndicat des acteurs américains avait décidé de faire la grève. Donc, j'ai perdu mon financement, qui a été tellement compliqué à avoir. J'ai survécu à sept présidents de la 20th Century Fox. Tous les 3 mois, ils se faisaient virer. Et tous les 3 mois, mon film était arrêté. Il fallait que je retourne à Los Angeles faire le malin pour expliquer quel était mon film. Et quand les gens disaient « Est-ce qu'on peut avoir les sous-titres ?» Ben, je disais « Il n'y a pas de sous-titres. » C'était un film très cher, avec des acteurs complètement inconnus, qui couraient cul nu en poussant des borborygmes. Vous savez,
oui, dit comme ça, oui.
C'est des films. Mais non, mais il faut se replacer dans le contexte hollywoodien. Hollywood, c'est pas une machine artistique. C'est une entreprise pour gagner des sous. Et quand vous proposez de gagner des sous avec des inconnus qui courent sur les volcans d'Islande ou dans la savane du Kenya, on vous regarde comme un fou furieux, à juste titre d'ailleurs. Quand je disais, mais j'aurais des mammouths, j'ai un troupeau de mammouths, mais comment on fait des mammouths? Ben, on habille des éléphants. Mais comment on habille des éléphants? Ben, on les prépare. Pendant combien de temps? Ben, pendant 6 mois. Donc les gens, ils voient d'un seul coup 6 mois de préparation de 18 mammouths, forcément, de 18 éléphants. je sais pas, beaucoup de gens me disent aujourd'hui, les films que tu as faits seraient infinançables. C'est probablement vrai parce qu'autrefois, au moins, il y avait à la tête des studios des gens qui aimaient le cinéma, même s'ils devaient gagner de l'argent pour satisfaire leurs financiers eux-mêmes, ils avaient quand même l'espérance de faire des films qui marquent, des films qui étonnent. Aujourd'hui, ce sont des comités de fonctionnaires banquiers qui font les décisions. Donc eux, ils s'en foutent du contenu.
Merci beaucoup pour cette première partie de notre conversation, Jean-Jacques Haneau. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite.
Vivement la semaine prochaine.
Ça va arriver très vite, vous allez voir. Je rappelle votre autobiographie qui est sortie chez Grasset, Une vie pour le cinéma. Et puis vous serez du 7 au 10 mars invité à la deuxième édition des rencontres 7e art Lausanne, aux côtés entre autres de Paul Auster, ça c'était votre café, d'Agnès Jaoui, de Joël Cohen, de Matt Dillon et de Jean-Paul Rapneau. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de l'événement rencontre7art.ch, rencontre au pluriel 7art.ch. Je vous propose de clore cette première partie de conversation musique avec du Tchaïkovski, Les saisons, juin, Barcarolle, thème que l'on retrouve au générique de fin de votre film L'Ours.
Moi, ce que j'aime, c'est essayer de comprendre, de rentrer dans la psychologie de l'autre, de m'identifier, en fait.
Vous venez d'écouter la première partie de la conversation avec Jean-Jacques Haneau. La suite et la fin, ce sera la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci à Alexandre Lemierre pour la réalisation. Pour écouter ce programme, vous pouvez vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très belle journée à l'écoute des programmes d'Espace 2.
La 38e édition de l'AMR Jazz Festival se déclinera en 6 soirées de double concert au sud des Alpes à Genève, présentant musiciens internationaux et richesses de la scène locale. ADHD, Enrico Rava, le trio Danilo Perez, John Patitucci, Terry Lynn Carrington, John Aram Underground Orchestra et Manu Hagman's Choice, pour ne citer qu'eux, seront au menu de ce festival de haute tenue. Et le meilleur de l'AMR Jazz Festival dans Jazz, le samedi à 18h sur Espace 2. Plus d'infos sur amr-genève.ch.
Il est 13h, vous écoutez Espace 2, voici le journal de la mi-journée.